C'est le moment de faire un premier point sur le projet Un an pour la planète. Florent et Nicolas ont passé maintenant 2 mois au Brésil et viennent de passer la frontière bolivienne. L'occasion pour nous de revenir sur leurs nombreuses expériences. Quelles sont les expériences au pluriel par rapport au projet Un an pour la planète dont vous voudriez parler aux auditeurs de Radio Éthique ?
Alors déjà, on va faire un petit retour sur le Brésil. Donc, il y a eu une période qui a été beaucoup découverte du pays, notamment du carnaval. Il y a eu un mois assez intense en termes de rencontres où là, on est vraiment rentré dans l'intérieur du pays, dans des zones absolument pas touristiques, pour rencontrer plusieurs associations. Une première qui s'appelle Nordesta, dans le Minas Gerais, qui travaille notamment sur de la reforestation au bord de sources du fleuve São Francisco. De la reforestation donc, qui a pour objectif premier de garantir la pérennité du fleuve, la pérennité des sources et garder en eau en fait les sources et aussi garder la pureté de l'eau des sources. C'est les bassins versants qui abreuvent toute la moitié nord du pays, une grande partie du nord-est, et donc c'est quelque chose d'assez déterminant. C'est une association qui a été montée par une Suisse et qui est financée en grande partie par la Suisse. C'était quelque chose de très intéressant. Et ensuite on est resté sur la thématique forêt, mais alors là c'est dans la forêt amazonienne, dans l'état de Rondônia, complètement à l'ouest du pays, un état qui est connecté par la route depuis le début des années 70. L'urbanisation et l'industrialisation est très récente. Là, on a eu l'impression de se retrouver dans des documentaires qu'on croyait du passé, c'est-à-dire des documentaires où on voit des nouveaux Indiens qui sont découverts, des zones qui sont déforestées par des industriels sans scrupules et aussi par des intérêts internationaux, dont français, sans scrupules. Et on pensait que c'était des images anciennes. Et c'est encore complètement d'actualité et on a très envie d'écrire là-dessus parce qu'on a été profondément marqué par tout ce qu'on a pu voir là-bas. C'est du tout récent et du complètement d'actualité et des schémas finalement dramatiques qui se reproduisent depuis des dizaines d'années et qui vont encore se reproduire, qui risquent de se reproduire encore dans d'autres zones qui sont encore jusque-là préservées, notamment dans l'état d'Amazonas, qui est un peu la dernière zone d'Amazonie qui jusque-là n'est pas connectée par la route. Et il y a des projets de route. On a un peu peur qu'il se passe exactement la même chose là-bas. Je vais parler juste d'une expérience qui est arrivée, ça a été un peu la cerise sur le gâteau quand on était en Amazonie. On a été invité au pied levé à passer une nuit dans le village d'une tribu indigène. On a pu les interviewer, voir un petit peu leur vie pendant 24 heures. Et ça, c'était une expérience incroyable, sachant que normalement, pour aller dans ce genre de réserve, il faut des autorisations fédérales. Et nous, on a eu l'occasion d'avoir d'être au bon moment, au bon endroit.
Comment s'est passée la rencontre ?
En fait, on participait dans la matinée à un atelier de réflexion sur diverses problématiques de santé, de préservation de la nature, etc. Donc un Indien de la tribu des Surui participait donc à cet atelier. On a pu prendre contact grâce à cette réunion et nous emmener directement dans sa réserve. Bon, je vous cache pas qu'on n'était pas non plus bilingue en portugais. On réussissait tant bien que mal à communiquer et on s'est très bien compris. On espère maintenant pouvoir leur venir en aide grâce aux images qu'on a pu faire et on se veut maintenant leur porte-parole pour essayer de leur venir en aide.
Dans leur village, il y a des paraboles pour recevoir la télé. Il y en a quelques-uns qui commencent à avoir des téléphones portables, bien qu'il n'y ait pas de réseau sur leur territoire. C'est un mélange de vie traditionnelle très poussée, c'est-à-dire on voit des personnes qui sont en habit traditionnel dans le village. On mange avec les mains, on a mangé une tête de poisson avec du riz, on a bu une boisson qui s'appelle la chicha, qui est un mélange à base de maïs qui fait un petit peu peur quand on voit arriver la boisson, après qu'il y ait 10 personnes qui aient bu dans le bol. Donc il y a un côté très traditionnel et puis un mélange de modernité, c'est-à-dire que c'est des personnes qui commencent à savoir très bien communiquer, notamment au niveau des chefs, pour essayer de faire valoir leurs intérêts. C'est du coup assez difficile pour nous de se positionner, c'est-à-dire qu'il y a un mix d'inconnus et aussi un peu de, parfois on pense de bluff de leur côté, c'est-à-dire qu'ils savent très bien, il y a certaines personnes qui savent très bien communiquer de leur côté. Le pauvre peuple indigène qui est maltraité, on va dire, ce qui est vrai dans le fond, ce qui est complètement vrai, mais on va dire que les intérêts individuels ne sont pas forcément toujours les intérêts collectifs. Ouais. Et on voit que ce qu'on a pu voir et qui nous a vraiment marqué, c'est que quand on a discuté avec vraiment des personnes de la population indigène qui ne sortent jamais du village, notamment des jeunes de 16-17 ans, on voit que là, il y a vraiment un état de détresse par rapport à la culture, par rapport à la situation économique et par rapport rapport à la non-intégration ou l'intégration dans le monde, on va dire, blanc, occidental. Et ça, c'est des problématiques très difficiles à aborder pour nous parce que très, très, très nouvelles. Quand il y a des jeunes de 17 ans qui nous interpellent en nous disant « Mais qu'est-ce que vous pouvez, vous qui êtes là, comment vous pouvez nous aider ? Comment l'homme blanc peut nous aider ? Qu'est-ce qu'il nous apporte ?» Alors que jusque maintenant, il nous apportait surtout des problèmes. Et là, c'est des heures de discussion derrière, mais passionnantes, mais très interpellantes.
On a un peu découvert sur le terrain ce qui se passait, effectivement, et on a constaté un peu la candeur, on va dire, des indigènes. En étudiant plus ce sujet derrière, on a pu rencontrer d'autres associations, montrer en fait à quel point c'était un monde politisé et que certaines tribus sont représentées par une ou deux personnes qui communiquent worldwide, aux États-Unis, en Europe, sans pour autant se préoccuper vraiment du sort de leurs congénères.
Et à côté de ça, il y a d'autres populations qui sont aujourd'hui menacées par la mise en place notamment de barrages sur les fleuves amazoniens et qui n'ont pas de voix, qui ne sont pas écoutées. Et les intérêts économiques là sont bien supérieurs aux inquiétudes qu'on peut avoir aussi bien en termes d'impact environnementaux et d'impact pour les populations locales. Les problématiques liées aussi à la corruption à tous les niveaux font que on va dire, les aides internationales ou les aides nationales ne vont pas forcément toujours là où on imagine et que c'est très très compliqué de pouvoir aider ces populations sans se confronter à des problématiques de blocage ou financier ou politique pour toutes ces thématiques.
Qui est-ce qui vous parlait particulièrement de la corruption dans vos rencontres ?
On va dire qu'on a rencontré beaucoup de personnes qui travaillent, notamment des étrangers, qui travaillent depuis 20 à 30 ans sur le terrain, qui ont travaillé aussi bien dans la gestion de parcs forestiers que dans l'aide aux populations locales. Tous ont été de près ou de loin confrontés à la corruption. Et ce n'est pas seulement au niveau intérieur, c'est-à-dire pas seulement au niveau intérieur du pays. C'est aussi tout un système qui est rodé, qui peut remonter jusqu'à des instances internationales. Il y a tellement, on va dire, d'étapes entre le besoin très local et les aides qui viennent de très loin, qui peuvent venir de la Banque mondiale ou d'autres endroits, qu'il y a tellement d'étapes aussi bien à l'extérieur du pays que dans le pays, que potentiellement, à toutes les étapes, il peut y avoir des problèmes de transmission d'informations et de fonds.
La parenthèse brésilienne s'est achevée. Alors, en deux mots, votre meilleur souvenir et le pire ?
Alors, ben moi, je mets tout de suite sur la table notre traversée d'une petite portion de forêt brésilienne en coccinelle d'époque. On cherchait à se rendre, en fait, dans une petite parcelle de terrain perdu au milieu de la forêt amazonienne. Et n'ayant pas d'autres moyens de transport, on a une connaissance qui nous a gracieusement prêté son véhicule. Véhicule de 1978, marchant à l'essence, sur les pistes avec plein de trous inondés, etc. Ça a été quelque chose de...
C'est mémorable.
Je vais tenter un sur le pire, j'ai hésité entre plusieurs, mais c'est une jonction en bus qui devait durer 30 heures. On devait déjà faire 30 heures de bus et arriver un soir. On partait de l'est du pays, donc un petit peu au nord de São Paulo, pour aller au début de l'état de Rondônia, donc au début de la zone amazonienne, juste avant de rencontrer justement le peuple Surui. Sauf que visiblement, on n'avait pas compris tout à fait. On commençait à être vraiment fatigué, en plus il faisait 35 degrés et que la clim était largement sous-dimensionnée. Finalement, on a appris qu'on allait arriver à 5h du matin le lendemain matin et qu'on reprenait 12 heures de plus de bus. Et là, ça a été assez difficile de savoir qu'on avait passé notre deuxième nuit dans le bus, sachant que ça faisait 30 heures qu'on n'avait pas pris de douche et qu'on rêvait d'une nuit dans un lit et d'une douche.
En tout cas, vous êtes arrivé à bon port.
On est arrivé à bon port, un petit peu fatigué, mais la suite nous a dit qu'on avait bien fait d'être patient.
Maintenant, pour la partie bolivienne, quel est à peu près votre planning pour les jours à venir ?
Ça va être beaucoup plus court pour la Bolivie, c'est plutôt une quinzaine de jours. Et donc là, on va faire ensuite une petite halte touristique de 5 jours dans la partie sud de la Bolivie, sur l'Altiplano, voir le Salar de Uyuni, peut-être les mines de Potosi et toute cette zone du sud du pays qui a l'air magnifique. Et ensuite, on enchaîne à La Paz, où on va rencontrer une association qui s'appelle Andean Cat Alliance, qui travaille sur la préservation du chat andin sur 4 pays, l'Argentine, la Bolivie, le Chili et le Pérou. On rencontre leur maison mère, on va dire, à La Paz, et la présidente, pour avoir un premier aperçu de l'association. Et ensuite, ouais, on va sur le terrain au Pérou, là, dans une zone assez reculée, à 5 heures de route de Cusco, dans des zones très montagneuses, entre 4000 et 5500 mètres, où on va aller voir concrètement leur travail sur le terrain. Donc là, on pourra vous en dire plus lors
des prochains passages à l'antenne.
Sur le site, on a pour l'instant beaucoup de carnets de voyage, pas mal de photos aussi, on a des retours positifs sur les photos, on espère que les auditeurs de Radio Éthique les apprécieront aussi. Là, on est en train de finaliser quelques articles, donc bientôt les articles arriveront. Puis il y a aussi la revue de presse sur le site qui montre un petit peu ce qu'on a pu diffuser jusqu'à maintenant.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le www.unanpourlaplanete.org.